16 juin sur allodon.fr/écuge. Facile, allodon.fr/écuge.
Eva Soto, Charlène Villemer, le 6-9, Radio J. Radio J.
Excellent réveil sur Radio J. Shavuatov. Nous sommes le dimanche 15 juin 2025 et tout de suite, c'est le journal d'Israël avec les studios Kalita.
Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem.
Et nous retrouvons notre correspondant en Israël, Olivier Granilic. Bonjour Olivier et Boker Tov.
Boker Tov, Charlène, Boker Tov, auditeur de Radio J.
Israël en guerre contre la République islamique d'Iran. Olivier, pouvez-vous nous dire quels sont les derniers développements ?
Oui, la dernière nuit a été particulièrement meurtrière, Charlène, puisqu'un bilan très lourd, 4 personnes ont été tuées, et dont 2 enfants de 8 à 10 ans dans la ville de Bat Yam, dans le centre du pays, et 4 femmes d'une même famille ont été aussi tuées après une attaque en direction du nord d'Israël. La première attaque a eu lieu donc vers 22h30 hier soir. Elle visait le nord du pays. Un des missiles est tombé sur le village arabe de Tamara. Résultat, 4 femmes ont été tuées et au moins 14 personnes blessées. Et puis quelques heures plus tard, 3h du matin, les sirènes ont retenti à nouveau dans tout le pays. Cette fois, il s'agissait d'une attaque combinée de missiles et de drones sur le centre du pays. Un missile s'est écrasé sur un immeuble résidentiel de plusieurs étages, de 10 étages très exactement. Le bilan est, comme je vous l'ai dit, très lourd. 4 morts et 125 blessés selon le Magen David Adom. Il y a encore des personnes qui n'ont pas été retrouvées. On parle de 35 personnes qui n'ont toujours pas été retrouvées et les recherches se font donc dans les décombres de cet immeuble. Des images en provenance de cette rue de Bat Yam sont impressionnantes. Façade éventrée, étage effondré, des voitures calcinées. Elles montrent avec ampleur et avec force les dégâts causés par la chute d'un missile en pleine zone résidentielle.
Et 48 heures après le début de l'opération, l'aviation israélienne a mené des frappes quasi ininterrompues contre l'Iran dans le cadre de l'opération baptisée Amkelavi.
Tout à fait, lancé donc dans la nuit de jeudi à vendredi, l'opération se poursuit et à ce moment même où on se parle, cette opération se poursuit dans les cieux de Téhéran et de l'Iran entièrement. Selon l'armée israélienne, des dizaines de cibles militaires iraniennes ont été visées, notamment des sites stratégiques liés au programme nucléaire et balistique de Téhéran. Parmi les cibles attaquées, un site souterrain à l'ouest de l'Iran, identifié comme un complexe de stockage de missiles sol-sol et de missiles de croiseur, des rampes de lancement aussi été touchés. Au moins 2 sites utilisés aussi pour l'enrichissement de l'uranium ont été également détruits ou endommagés par ces raids. De plus, Tsahal, grâce à un travail de renseignement extraordinaire, a réussi à éliminer les plus hauts responsables de l'armée et des gardiens de la révolution islamique en Iran.
Benjamin Netanyahou s'est quant à lui adressé aux Israéliens hier soir dans un message solennel.
Un message vidéo qui a été diffusé donc samedi soir, le Premier ministre israélien a affirmé que les frappes massives de ces derniers jours ne sont que le début d'une opération d'envergure visant à éliminer la menace existentielle que représente le régime iranien. Il a précisé que les frappes israéliennes ont visé directement des infrastructures liées à la production de bombes nucléaires, ainsi que l'équipe de scientifiques en charge du programme nucléaire militaire. Il a aussi évoqué la menace balistique iranienne, rappelant que Téhéran dispose de 20 000 missiles destinés à compléter sa capacité de destruction nucléaire. Il a également salué le sang-froid de la population israélienne et a appelé les citoyens à respecter scrupuleusement les consignes du commandement du front intérieur.
Alors concrètement, Olivier, quelles sont les consignes du commandement du front intérieur en ce moment ?
Des règles très strictes qui sont en vigueur et qui sont entrées en vigueur depuis jeudi soir et qui continueront aujourd'hui. Elles sont bien entendu, peuvent changer et modifier à tout instant en fonction de l'évolution de la situation. Alors les consignes sont d'abord que tout rassemblement de plus de 3 personnes est interdit, y compris à l'extérieur. Le système éducatif est totalement à l'arrêt. Crèches, écoles, universités sont fermées. Le ministre de l'Éducation a demandé le passage immédiat à l'enseignement à distance. Et puis les plages en Israël sont fermées aussi au public. Seuls les travailleurs considérés comme essentiels sont autorisés à se rendre physiquement sur leur lieu de travail. Des consignes, à suivre à la lettre. Elles sont là pour sauver des vies. Je m'adresse plus particulièrement à nos auditeurs et téléspectateurs qui sont en Israël. Et évidemment, l'espace aérien israélien est totalement fermé, hermétiquement. Aucun vol n'atterrit ni ne décolle depuis l'aéroport Ben Gurion.
Et ben justement, à ce sujet, Olivier, 50 000 Israéliens sont actuellement bloqués en dehors d'Israël.
Il y a un chiffre qui pourrait doubler dans les prochaines 24 heures. Face à l'urgence, le ministère des Transports prépare un plan de rapatriement qui sera présenté au gouvernement dès lundi pour le directeur de l'autorité des aéroports, Shmuel Zakai, et qui, il faut se préparer à un processus long. Il parle de semaines avant le retour à la normale.
Et cette guerre contre l'Iran ne doit pas nous faire oublier qu'Israël est en guerre sur un autre front, à Gaza. Il y a eu un soldat israélien qui est tombé ce Shabbat.
Mais le porte-parole de Tzahal a publié le nom d'un soldat supplémentaire tombé au combat hier donc contre les terroristes du Hamas dans le sud de la bande de Gaza. Il s'agit du sergent Noam Shemesh, 21 ans, originaire de Jérusalem, combattant du bataillon Kfir. Il a été touché par un tir de RPG tiré par un terroriste du Hamas. Sa famille, bien entendu, a été prévenue. On fait le point tout à l'heure à 7h30 à Paris, 8h30 ici à Jérusalem.
Merci beaucoup Olivier. On vous retrouve en effet dans moins d'une demi-heure pour la revue de la presse israélienne. Ce matin, c'est un ciel nuageux. Tout le monde se réveille sous un ciel gris et nuageux, sauf la Corse. Encore de nombreuses averses orageuses circulent des Pyrénées au nord-est. Ça va s'évacuer peu à peu vers la Belgique. Aujourd'hui, on aura des orages aussi du sud Auvergne au Rhône-Alpes avec des pluies soutenues, de fortes de rafales de vent aussi, puis des coups de tonnerre, un peu de grêle. Prévu également au niveau des températures, c'est le retour de la fraîcheur dans le nord avec 15 à 22 degrés ce matin et jusqu'à 24 degrés cet après-midi. La chaleur, elle va persister au sud-est et pourra atteindre jusqu'à 35 degrés en Israël. Du soleil et un léger voile nuageux du côté de Tel Aviv et Haïfa. Du soleil partout ailleurs. Il fera 25 degrés cet après-midi à Haïfa, 26 degrés à Tel Aviv, 30 degrés à Jérusalem et 33 à Eilat.
Charlène Villemer, Eva Soto, le 6-9, Radio J.
Radio J.
À rejoindre le paradis des musiciens qu'elle chantait. Danielle Messia, chanteuse franco-israélienne, fauchée en pleine ascension musicale, est morte le 13 juin 1985 à seulement 28 ans. Révélée dans les années 80, elle a mis du temps avant de se faire connaître dans l'industrie musicale et elle fait partie de ces artistes qui n'ont pas eu le temps de faire carrière, emportée très jeune par la maladie. Elle est donc notre portrait du jour sur Radio J. La chanteuse voit le jour le 27 octobre 1956 à Jaffa, en Israël. Mais c'est en France, et plus précisément en région parisienne, que ses parents décident de vivre. Un exil suivi d'une déchirure quand le père de l'artiste quitte le domicile pour les États-Unis. Cette fois-ci, c'est un événement familial marquant qui nourrira l'œuvre de Danielle Messia toute sa vie. En France, Danielle part étudier l'histoire à Orléans. Mais la musique, elle est déjà là, elle. La jeune femme fait ses premières armes dans un groupe de folk au nom plutôt loufoque, écoutez bien, les Gratons Laveurs.
T'as-t-il le haut, t'as-t-il le bas, apportez-nous un gros morceau. Si vous ne voulez rien nous donner, faites point attendre un petit vent du nord qui vient souffle dans nos jambes.
En 1970, elle participe à leur album Le Bal des Sorciers, où elle fait des chœurs. Cette expérience en poche, la jeune artiste voit plus grand puisqu'elle fait partie. Elle va faire le tour de l'Europe, l'Italie, à la Roumanie. guitare à la main que Danielle parcourt l'Europe et anime ses rues. Après ce parcours formateur, en 1978, elle tente à nouveau sa chance en France, cette fois-ci boostée à bloc. Au départ, elle continue à chanter dans la rue. Ensuite, elle intègre un cabaret et enregistre un disque autoproduit avec un titre clin d'œil à sa vie passée, Blues de la Manche. À la fin des années 1970, Danielle Messilla prend son destin en main avec l'organisation d'un concert où elle fait venir 200 personnalités du showbiz. C'est là, à cet instant précis, que la carrière de Danielle va changer. Sur place, un journaliste va l'introduire au sein du label Barclay et va suivre un contrat. En 1980, la chanteuse sort son premier album, empreint de ses obsessions. L'enfance, une enfance douloureuse pour Danielle. L'amour et puis le voyage aussi. Elle qui a foulé le pavé et croisé de nombreuses personnes sur sa route. Sur cet album, deux titres sortent du lot et deviennent populaires. Il fait soleil, que l'on écoute en ce moment, et puis le paradis des musiciens. Elle a ce petit quelque chose, Danielle. Sa voix est puissante, sa sensibilité est évidente. Cette baroudeuse touche le public dès la première écoute. Alors le deuxième album arrive, en 1982 cette fois. Et lui, il contient un succès, De la main gauche, un titre souvent considéré comme un hymne à la différence. De quoi parle cette chanson ? Eh bien de l'acceptation de ses maladresses, de ses différences. Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais parlé. Celle qui hésite, elle est si gauche. Dans cet album introspectif, presque thérapeutique, Danielle adresse également un message à son père. Pourquoi tu m'as abandonné ?
La fallu que j'apprenne à marcher. La fallu que j'apprenne à m'aider. Je me suis même brise pour mon image.
La fille du risque et des voyages a grandi et elle a du succès. Cette notoriété lui permet de sortir en 1985 son troisième album, Carnaval, qui contient notamment Grand-mère Ghetto, en hommage à sa famille rescapée des camps de concentration. Danielle Messilla participe entre autres au Printemps de Bourges et au Festival Equinox en Bretagne, elle qui a 30 ans fréquenté les scènes. La même année, le coup près tombe et une leucémie foudroyante également. Danielle Messilla décède donc le 13 juin 1985, partie au paradis des musiciens à l'âge de 28 ans seulement. Jean-Jacques Goldman, qui se sentait proche de la chanteuse, lui dédiera le titre Famille et continue à soutenir les initiatives en sa mémoire. Son entourage, lui, participe à la publication de l'album posthume Les Mots, qui contient des inédits et reçoit le grand prix de l'Académie Charles Cros In Memoriam. Bah tiens, on va écouter un petit peu de Danielle Messilla ce matin, Les Mots.
Charlène Villemer. Les infos week-end.
Et il est 7h15, on retrouve Eva Soto pour le rappel des titres. Bonjour Eva.
Bonjour Charlène, bonjour à tous. À la une de l'actualité, nuit très difficile en Israël. Une centaine de missiles tirés depuis l'Iran et un bilan humain très lourd. 8 morts, 4 à Tamara dans le nord, une localité arabe israélienne, et 4 autres à Bat Yam. Il y a aussi au moins 200 blessés. 20 Israéliens sont toujours portés disparus. La méthode employée par le régime islamique iranien, c'est la même, c'est de saturer les systèmes antimissiles israéliens. Israël qui dit avoir visé le ministère de la Défense iranien et des sites liés au projet d'armes nucléaires, c'est ce qu'a déclaré l'armée israélienne sur Telegram. Ces opérations ont été menées par l'aviation de Tsahal. Donald Trump affirme que la guerre contre l'Iran doit s'arrêter. C'est ce qu'il a dit hier soir lors d'un entretien avec le président russe, alors que de son côté, le président Isaac Herzog appelle la communauté internationale à soutenir la campagne d'Israël contre l'arme nucléaire iranienne. Les ambitions du régime menacent non seulement Israël, mais aussi la paix mondiale. Israël donc en état de guerre, les écoles restent fermées, les lieux de travail aussi, sauf ceux qui sont jugés essentiel. Le trafic aérien est toujours à l'arrêt total, ce qui signifie donc que des Israéliens sont actuellement bloqués à l'étranger. Il y en a 50 000. Toute la flotte est prête à décoller pour aller les chercher dès que le feu vert sera donné. Répercussions en France, la crainte d'attentats de la part du régime islamique ou de ses proxys. Vigilance particulière par rapport aux intérêts israéliens et américains ainsi qu'aux lieux de la vie juive. Le ministre de l'Intérieur a adressé un message au préfet hier. Bruno Retailleau appelle aussi à la mobilisation des services de renseignement.
Merci beaucoup Eva, on vous retrouve à 8h pour le journal complet.
Charlène Villemer, Eva Soto, le 6-9, Radio J.
Merci d'être avec nous sur Radio J et très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez la matinale week-end et on est ensemble jusqu'à 9h. Si vous n'avez pas le temps de rester jusqu'au bout, pas de panique, hein, vous pouvez réécouter cette émission à tout moment en podcast sur radioj.fr et puis retrouver aussi vos interviews en vidéo sur notre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous le redis, abonnez-vous, le petit clic sur YouTube, c'est le meilleur moyen de ne rien manquer. Mais puisque vous êtes là, voici ce qui vous attend dans la prochaine demi-heure, dans moins de 30 minutes. C'est l'instant diplomatique, comme chaque dimanche, avec Yehuda Lankri, ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU et en France. Eva Soto sera avec lui juste avant. Eh bien, c'est l'interview culture, comme chaque dimanche. Et ce matin, on va parler musique avec un journaliste. Oui, musique avec Benjamin Petrovert, une figure connue de la télévision et de la radio. Mais on va parler de son voyage musical ce matin. Ce sera à l'Écuge. La campagne à Laudon se clôture demain. Et ce sera donc son concert qui va clôturer cette campagne. Donc, direction l'Écuge demain pour le concert de Benjamin Petrovert. Le voyage musical de Paris à Tel Aviv. Le Zoom Israël, évidemment, avec Pascal Zonshine, c'est une émission spéciale. Et puis à suivre, eh bien, c'est la chronique de Guy Konopnicki.
Les enfants de la République. Tous les dimanches sur Radio J à 9h, au micro de Frédéric Aziza.
Ce dimanche, je recevrai le journaliste de Libération, Jean Quatremer.
Les enfants de la République, c'est tous les dimanches à 9h, uniquement sur Radio J. Message de Hort France. Chers partenaires, experts comptables, entreprises, en versant le solde de votre taxe d'apprentissage aux écoles Hort France, vous soutenez l'innovation, l'éducation et l'avenir de nos étudiants.
Votre contribution fait la différence. Dès le 27 mai, connectez-vous sur la plateforme Soltea et fléchez vers les écoles du réseau Hort France.
Une question? Appelez-nous au 01 44 17 30 80 ou rendez-vous sur hort-france.fr.
ORT-france.fr.
Merci pour votre engagement.
Les cultures juives, ça se défend. Et l'Écuge aussi. Soutenir l'Écuge, c'est transmettre la richesse des cultures juives, lutter contre l'ignorance et renforcer une vie juive libre, ouverte et accueillante. Les 15 et 16 juin, on compte sur vous pour la première grande campagne d'appel aux dons de l'Écuge.
Et votre impact est doublé.
Oui, oui, chaque don compte double.
Double.
Alors rendez-vous les 15 et 16 juin sur allodon.fr/Écuge. Facile, allodon.fr/Écuge.
Eva Soto. Charlène Villemer, le 6-9, Radio J.
Il est 7h20 et c'est l'heure pour vous de retrouver notre chroniqueur, le journaliste et écrivain Guy Konopnicki. Bonjour Guy.
Bonjour. L'imposture et le mensonge viennent tout juste de porter Mélenchon vers les cimes du grotesque lorsqu'il accueille, place de la République, l'héroïne d'une croisière estivale avec retour en avion offert par l'État d'Israël. Il était lyrique, Mélenchon. Pour un peu, il eut troqué son habituelle prose boursouflée de comice agricole pour quelques vers de Mirliton, mais il était difficile de trouver la rime de la rima, sauf à avouer que la rime a rien. Pensez donc, une femme qui a eu le grand courage de refuser son 4 heures, ce qui en langage LFI s'appelle une grève de la faim. Oh, comme elle a souffert, cet enfant des castes privilégiées de l'ancien régime syrien, contrainte de voyager en classe économique. Ah, c'est ce qui s'appelle de la maltraitance. Mieux, ce mannequin vedette de la mode keffier s'est vu comparé à Victor Hugo par le Thénardier de la politique française, détrousseur du cadavre de la gauche. Mélenchon, qui se fantasme en président de la République, marche en fait sur les brisées de Paul Deschanel, qui perdit la raison après son entrée à l'Élysée. Mieux vaut que ce soit fait avant. Malheureusement, les médias, nombre d'intellectuels et une partie des politiques traitent les délires LFistes comme s'ils avaient le moindre rapport avec le réel, acceptant par exemple l'emploi du mot « génocide » à propos de Gaza, ou laissant une députée de Paris lancer sur la place de la République le slogan « From the river to the sea », qui est, lui, un appel au génocide du peuple d'Israël. Le traitement de cette croisière en folie à partir d'images de propagande tournées à bord aura été d'une indécente complaisance. Personne n'a demandé ce qui se trouvait vraiment dans les soutes, car il s'agissait, paraît-il, de livrer de l'aide humanitaire, dans les soutes d'un yacht. Mais de qui s'est-on moqué? De ceux qui l'ont bien voulu, sans doute. Au lendemain de cette équipée grotesque, notre extrême gauche a trouvé une nouvelle victime du terrible état sioniste. La dictature iranienne, frappée dans ce qu'elle a de plus cher, ses centres de recherche nucléaire et ses chefs militaires, généraux des légions de tortionnaires qui martyrisent le peuple iranien. Au moins, l'extrême gauche a-t-elle le mérite de la constance dans la haine d'Israël et du peuple juif? On la croyait écolo, la voici qui manifeste pour le droit aux armes nucléaires. On la supposait féministe, elle défend un régime qui opprime les femmes en multipliant les exactions, les tortures et les assassinats. D'autres qui, hier, croyaient le moment venu de rejoindre la cohorte des censeurs d'Israël et de reconnaître un État palestinien de papier quand le terrorisme interdit pour l'heure toute marche vers la paix, d'autres redécouvrent la solidarité naturelle des démocraties face à un État totalitaire. La France, qui avait conduit les négociations pour permettre à l'Iran de produire de l'énergie nucléaire en échange d'une promesse de renoncement à son usage militaire, la France réalise qu'Israël rend service à tout le monde démocratique en privant l'Iran des moyens de fabriquer rapidement des bombes atomiques. Emmanuel Macron se souvient donc de l'intérêt supérieur de la nation, dont l'ennemi n'est évidemment pas Israël, mais bien le régime de Téhéran. Le choix de frapper l'Iran est douloureux pour les Israéliens. Les Occidentaux seront soulagés à peu de frais. Ce sont les villes d'Israël, les zones peuplées de civils, que le régime de Téhéran vise en premier. Le nombre de victimes civiles serait proprement effarant sans les dispositifs d'interception des missiles, certes, mais surtout, sans l'exceptionnel sang-froid des Israéliens qui vivent au rythme des alertes et passent de longues heures dans les abris. Il y a ici beaucoup de gens qui pérorent sur la paix en ignorant ou en feignant d'ignorer ce que le terrorisme et les guerres régionales doivent au régime des ayatollahs de Téhéran. Et pas seulement les guerres régionales, car l'Iran est aussi l'un des fournisseurs d'armement de la Russie dans la guerre contre l'Ukraine. Bien sûr, cette guerre ne fait que commencer et elle est inégale. Israël frappe des cibles précises, des bases militaires et des centres de recherche, des chefs terroristes et des docteurs Folamour affairés à mettre au point des armes de destruction massive. L'Iran, lui, frappe les villes, les populations civiles. Depuis le 7 octobre, Israël a affaibli l'Iran en portant de sérieux coups au Hamas, au Hezbollah libanais, en provoquant l'effondrement de l'allié syrien. Cependant, l'Iran n'a jamais cessé de pousser à la guerre, encourageant le Hamas à poursuivre le combat et à refuser toute proposition de trêve pour libérer les otages. Il n'y aura pas de paix au Proche-Orient tant que le régime islamique de Téhéran disposera de puissants moyens militaires, tant qu'il poursuivra sa course à l'arme nucléaire. Une guerre extérieure ne fera peut-être pas tomber le régime des ayatollahs. Elle peut cependant l'affaiblir suffisamment pour que le peuple iranien parvienne à s'en débarrasser. Un Iran démocratique changerait enfin la vie de ce peuple magnifique qui souffre d'une effroyable dictature religieuse. La paix deviendrait enfin possible, même pour les Palestiniens, dans un Proche-Orient pacifié. Nous n'en sommes pas là, mais Israël mène une guerre nécessaire, une guerre juste. Eh bien, à la semaine prochaine.
Et à la semaine prochaine, Guy Konopnik. Et vous pouvez retrouver cette chronique sur radioj.fr.
Radio J, Zoom Israël, Pascal Sunshine.
Radio J. Il est 6h26 sur Radio J. On repart en Israël retrouver notre correspondante Pascal Sunshine, Eva Soto.
Bonjour Pascal.
Avec nous sur Radio J, le bilan de ces attaques de l'Iran pendant la nuit, attaques aux missiles de l'Iran pendant la nuit, vient de s'alourdir. On est passé à 10 morts avec deux nouveaux corps retrouvés sous les décombres à Bat Yam et un survivant tout de même retrouvé à Rehovot.
Oui, les opérations des services de sécurité, enfin des services de secours plus précisément, et notamment les soldats du Pikoud Haoref, le commandement de la défense civile de Tal, se sont poursuivis toute la nuit après les impacts directs contre ces deux immeubles, l'un à Bat Yam et l'autre à Rehovot. Vous l'avez dit, donc deux nouveaux corps malheureusement ont été retirés des décombres à Bat Yam, où l'on en est donc maintenant à situer ce qui porte le bilan total des victimes de cette nuit à 10 morts, puisqu'il faut y ajouter 4 femmes qui ont péri cette nuit dans le village, dans la localité arabe israélienne de Tamra. C'était la première vague de missiles tirés par l'Iran. Et puis donc au moins une bonne nouvelle, ce survivant qui a été extrait de l'immeuble touché à Rehovot. On en est donc maintenant à 18 personnes toujours portées disparues et donc les services de secours qui continuent à explorer les décombres.
Et puis Pascal, Israël, Tzal plus exactement, dit sur son compte Telegram avoir visé le ministère de la Défense iranien et des sites liés au projet d'armes nucléaires.
C'est évidemment le résultat des opérations que l'aviation de Tzal a poursuivies tout au long de la nuit. On a vu hier soir de premières frappes contre les dépôts de carburant situés tout près de Téhéran, qui évidemment résonne avec la menace formulée quelques heures plus tôt par le ministre de la Défense, Israël Katz, qui avait dit que si l'Iran continuait à bombarder les populations civiles israéliennes, eh bien Téhéran brûlerait. On a donc vu ces images cette nuit des dépôts de carburant de la capitale iranienne en flammes. Mais évidemment, la priorité pour l'instant, c'est cette course de vitesse pour réduire les capacités de l'Iran à tirer sur Israël. Il reste encore à l'Iran des milliers de missiles et les opérations en fin de nuit menées par la chasse de Tzal visait notamment des dépôts et des pas de tir de missiles balistiques situés dans l'ouest de l'Iran, c'est-à-dire évidemment la partie la plus proche d'Israël, pour évidemment enrayer de nouvelles attaques iraniennes. Donc Israël qui vise à la fois tout ce qui est lié au programme nucléaire iranien, même si évidemment on est encore très loin du compte, les défenses antiaériennes de l'Iran pour permettre à l'aviation évidemment de procéder librement et donc aussi tous les dépôts de missiles balistiques, et ils sont nombreux, de l'Iran pour essayer de réduire la capacité de feu iranienne contre les localités israéliennes.
Merci beaucoup Pascal Sunshine, notre correspondante à Jérusalem. On vous retrouvera bien sûr demain matin dans le morning de Radio J, le 6-9 présenté par Ilana Ferradian. D'ici là, Pascal, on pense à vous, prenez soin de vous. À demain.
Merci Eva, à demain.
Charlène Villemer, Eva Soto, le 6-9, Radio J.
Radio J.
Vous êtes bien sur Radio J, il est 7h30, bon réveil. Nous sommes le 15 juin 2025 et tout de suite, c'est la revue de la presse israélienne avec les studios Kalita.
Radio J, la revue de la presse israélienne en direct de nos studios de Jérusalem.
De retour avec notre correspondant Olivier Granilic. Bonjour Olivier, Boker Tov.
Boker Tov, Charlène, Boker Tov aux auditeurs de Radio J, de Studio Kalita.
Avant de parcourir la presse israélienne et découvrir ce qu'ils ont à dire sur l'opération en cours en Iran, dites-nous, Olivier, quelles sont les toutes dernières informations?
Le bilan, malheureusement, à Bat Yam s'est alourdi. On est passé à 6 personnes qui sont décédées dans cette attaque qui a visé donc un bâtiment de 10 étages dans la ville donc du centre du pays. Les images sont assez hallucinante, des dégâts bien entendu. Parmi ces 6 personnes, il y a 2 enfants de 8 et 10 ans. Et il y a, Charlène, encore 35 personnes qui sont disparues. C'est-à-dire que ce bilan risque encore de s'alourdir au fil de la journée. On parle aussi de plus de 200 blessés donc dans cette explosion de ce bâtiment dans le centre du pays, à Bat Yam, très exactement.
Ce n'est pas vraiment une surprise. Ce matin, toute la presse israélienne titre l'opération Amgelavi, lancée il y a maintenant 48 heures.
Oui, pour de nombreux quotidiens, on parle d'un événement historique. C'est d'ailleurs le choix du Yediot Ahronot qui consacre sa une à deux images fortes. D'un côté, deux pilotes de l'armée de l'air d'Israël, visage flouté, qui s'enlacent quelques instants avant de décoller pour leur mission à plus de 2000 kilomètres d'Israël. Et de l'autre, une policière tenant dans ses bras un bébé qu'elle vient de sauver des décombres après la chute d'un missile sur un immeuble dans le centre du pays. Deux images fortes pour résumer ce que vivent les Israéliens depuis 48 heures.
Et que disent les commentateurs de la presse israélienne ce matin ?
Les éditorialistes accordent sur un point: l'opération lancée par Israël est d'une importance historique et ils saluent le courage de Benjamin Netanyahou qui a osé franchir le pas. Nadav Eyal, qui est très souvent contre Benjamin Netanyahou et très virulent contre Netanyahou, écrit ce matin que le plus grand succès diplomatique de sa carrière, c'est d'avoir obtenu le feu vert de la Maison Blanche pour frapper l'Iran. C'est l'héritage qu'il laissera aux générations, écrit-il ce matin dans le Yediot Ahronot. Mais rappelle certains, comme Nahum Barnea dans le Yediot Ahronot aussi, qu'une guerre ne se juge pas seulement à son coup d'envoi, mais aussi à sa conclusion. Selon lui, Donald Trump espère retrouver un Iran affaibli pour reprendre des négociations dans une position de force, et c'est à Israël en quelque sorte de faire le travail. C'est ce qu'il écrit ce matin dans les colonnes du quotidien Yediot Ahronot. Et puis Eyal Sisser dans le Israel Hayom va plus loin. Pour lui, l'objectif ne peut pas se limiter au programme nucléaire ou balistique iranien. Il faut viser clairement un changement de régime à Téhéran.
La presse de ce matin annonce qu'Israël est passé à la vitesse supérieure dans son offensive contre l'Iran.
Puis après avoir détruit plusieurs systèmes de défense aérienne autour de Téhéran, l'armée de l'air israélienne bénéficie désormais d'un corridor aérien vers la capitale iranienne, ce qui lui donne une liberté d'action presque totale dans le ciel iranien et plus particulièrement à Téhéran. Selon le porte-parole de Tzahal, plus de 150 cibles ont été visées en 48 heures, principalement autour de Téhéran. Et puis le chef de l'état-major, Eyal Zamir, a justifié cette intensification par l'urgence de la situation. Cette opération est une défense de l'existence du peuple juif, a-t-il hier déclaré. L'histoire ne nous pardonnera pas si nous n'agissons pas maintenant. C'est une dernière chance pour changer les choses, a-t-il aussi ajouté. Et puis, selon le Maariv, l'objectif d'Israël est clair: affaiblir durablement l'Iran et empêcher toute capacité balistique et nucléaire offensive.
Et on en sait un peu plus ce matin sur les coulisses de la décision d'ouvrir l'opération jeudi dans la nuit.
Oui, c'est le journaliste Amit Segal qui révèle les dessous de cette décision historique. Jeudi soir, le cabinet restreint de sécurité est convoqué officiellement pour parler de la libération des otages. Mais en réalité, Benjamin Netanyahou leur soumet un tout autre ordre du jour, donner le feu vert à une attaque contre l'Iran. Le secret est total, rien ne filtre et les ministres présents votent à l'unanimité l'opération commencera donc dans la nuit de jeudi à vendredi. Mais pour que la surprise soit totale pour les Iraniens, il fallait un complice. Et Israël l'a trouvé dans la personne du président des États-Unis. En quelques heures, et quelques heures plus tard, à minuit et 9 minutes très exactement, Donald Trump publie un message sur les réseaux sociaux dans lequel il répète que son administration reste engagée dans les pourparlers avec Téhéran et qu'il espère voir très rapidement de bons résultats. Un message qui, selon Segal, a rassuré les Iraniens. Ils ne s'attendaient donc pas à une offensive immédiate. Mais 3 heures après, donc, les premiers avions israéliens larguent leurs bombes sur des cibles militaires en plein cœur de l'Iran. La surprise générale des gardiens de la sécurité et des plus hauts responsables iraniens.
Et il est question des énormes dégâts causés par la chute d'un missile et des comportements qui peuvent sauver.
Oui, mais cette guerre n'est pas sans conséquences, bien entendu, pour la population israélienne. Et la presse israélienne, les sites israéliens reviennent, bien entendu, sur la chute d'un missile dans la ville de Bat Yam, cette nuit près de Tel Aviv, qui a provoqué l'effondrement partiel d'un immeuble résidentiel. Le bilan est lourd, donc on parle déjà de 6 morts et plusieurs dizaines de blessés. Et encore des personnes qui sont disparues. Des images impressionnantes montre l'ampleur des dégâts, des étages éventrés, des appartements soufflés, des familles choquées. C'est ce que diffusent depuis ce matin en boucle les télévisions et les sites d'information. Et pourtant, il y aurait pu avoir bien plus de victimes. C'est ce que nous dit aussi ce matin le site d'information Ynet. Selon les secours, le respect des consignes du commandement du front intérieur a sauvé de nombreuses vies. Entrez donc à temps dans les abris, ne pas sortir avant l'ordre officiel, restez calme, ces gestes simples peuvent faire toute la différence.
Et pour terminer, Olivier, le Yediot Aharonot publie ce matin un témoignage exceptionnel d'Azita, une jeune iranienne opposante au régime des Mollahs, qui raconte l'ambiance à Téhéran depuis les frappes israéliennes.
Oui, depuis jeudi soir, notre humeur oscille entre euphorie et peur, dit-elle. Zita parle donc dans le Yediot Aharonot d'une population sidérée d'opposants qui espèrent que les frappes israéliennes vont continuer, notamment contre les hauts responsables du régime. Pour elle, c'est le seul espoir d'un vrai changement. Elle décrit aussi une capitale sous tension, avec un internet au ralenti, une population divisée, des miliciens pro-régime dans les rues prêts à en découdre et des partisans du régime furieux de voir Israël frapper en plein cœur de l'Iran. On est prêt à tout, même à mourir, si cela met fin à ce cauchemar de 46 ans, confie-t-elle donc au journaliste du Yediot Aharonot. Selon elle, la chute du régime est possible et beaucoup rêvent qu'Israël ne s'arrête pas aux installations militaires, mais vise aussi les décideurs et les responsables politiques. Enfin, elle décrit un régime en panique, des arrestations, des fuites de hauts responsables et des rumeurs persistantes de désertion.
Merci beaucoup Olivier Granilli que l'on retrouve évidemment, qui fait partie des studios Qualita.
Le Forum Radio J. Retrouvez tous les dimanches à 14h10, le Forum Radio J, l'émission politique historique de Frédéric Aziza.
Ce dimanche, je recevrai le député LR Philippe Juvin.
Le Forum Radio J de Frédéric Aziza, c'est tous les dimanches à 14h10, uniquement sur Radio J.
Radio J.
Bonjour, c'est Ilana Ferradian. Vous connaissez ma voix depuis une dizaine d'années maintenant, mais pas forcément mon histoire. Cette histoire, j'ai décidé de vous la raconter sans filtre, à travers mon livre « 7 ans à t'attendre, journal de bord d'une PMA ». Je m'y livre sans tabou, sur mon infertilité, à travers les nombreuses suives que j'ai dû endurer pour avoir ma fille. Parce que c'est un sujet qui touche énormément de femmes et de couples dans la communauté. J'espère vous donner de la force et de l'espoir. « 7 ans à t'attendre, journal de bord d'une PMA », aux éditions David Reynarque.
Les
culture juive, ça se défend. Et l'écuge aussi. Soutenir l'écuge, c'est transmettre la richesse des cultures juives, lutter contre l'ignorance et renforcer une vie juive libre, ouverte et accueillante. Les 15 et 16 juin, on compte sur vous pour la première grande campagne d'appel aux dons de l'écuge.
Et votre impact est doublé.
Oui, oui, chaque don compte double.
Double.
Alors rendez-vous les 15 et 16 juin sur allodon.fr/écuge. Facile, allodon.fr/écuge.
Eva Soto, Charlène Villemer, les infos week-end.
L'interview culture comme chaque dimanche sur Radio J, les journalistes, présentateurs télé, on l'a vu et écouté sur Europe 1, RTL ou encore BFM et I24 News qu'il vient tout juste de quitter, mais il est aussi mélomane et musicien. Benjamin Petrovert est avec nous ce matin, bonjour.
Bonjour Alain et bonjour à tous vos auditeurs.
Bienvenue sur Radio J, une antenne que vous connaissez bien. Demain soir, vous serez à l'Écuge pour donner un concert exceptionnel de Paris à Tel Aviv, le voyage musical de Benjamin Petrovert. Un spectacle qui vient clôturer la campagne Allo Don lancée par l'Écuge. Ce n'est pas une première hein, puisque vous avez déjà donné, il me semble, un concert fin janvier. Mais c'est un spectacle entre deux rives, entre deux identités et puis une passion. La musique, c'est votre première passion, Benjamin ?
Oui, c'est ma première passion et c'est vrai que sur le concert aura, allez, on va dire, une teneur un petit peu particulière parce qu'on ne peut pas faire fi de ce qui se déroule en ce moment en Israël. Et évidemment, demain soir, lors du concert à l'Écuge, on va avoir une pensée particulière pour tous ces Israéliens qui, par millions, ces deux dernières nuits, ont dû passer des nuits dans les abris pour éviter les tirs venus d'Iran. Alors, on va essayer, au milieu de cette actualité douloureuse et pénible, eh bien, de trouver de la joie, de trouver du bonheur, parce que c'est ça aussi qui fait vivre. Et après tout, après le 7 octobre, c'est ce qu'avaient réclamé les danseurs de chez Nova lorsqu'ils écrivaient et faisaient des t-shirts où il y avait marqué « L'Onafsik Lerkod, on n'arrêtera pas de danser ». Eh bien, demain soir, nous, on dira « L'Onafsik Lashir ». On n'arrêtera pas de chanter.
Et oui, 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 le Dance Again également qu'on voit en tatouage, hein, un peu partout. Alors ce pont entre Paris et Tel Aviv, c'est aussi une image de votre identité, une histoire franco-israélienne, juive, musicale. Comment ces différentes appartenances nourrissent votre art et votre regard aussi ?
Voilà, bonne question. Écoutez, il se trouve que quand j'étais petit, on avait à la maison des vinyles qui dataient de l'époque de mes parents, parce que ma mère a beaucoup été en Israël avant ma naissance. Et j'écoutais souvent, j'étais fasciné par les disques israéliens de cette époque-là. Je ne sais pas pourquoi, ça me parlait énormément. Et quand j'écoutais ces chansons-là, je n'y comprenais rien, parce que moi je suis né à Paris. Et pourtant, elles me touchaient au cœur. Je pouvais m'émouvoir pour une chanson. Je pouvais pleurer en écoutant une chanson en hébreu que je ne comprenais pas, alors que vous me mettiez « I will always love you » et les cris de Whitney Houston, ça me laissait totalement différent. Mais ces airs-là et ce ton-là me parlaient. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi. Yeah. J'ai toujours été fasciné par ces chansons israéliennes. Oui. J'adore aussi la chanson française. Et dans ce voyage musical, eh bien, j'invite les spectateurs à bord d'un vol Paris-Tel Aviv. Et dans cet avion, qui lui fonctionne, eh bien, nous allons emporter dans nos bagages toutes les chansons françaises qui sont arrivées en Israël, tous ces grands tubes de Gilbert Bécaud, de Georges Brassens, de Jacques Brel, de Michel Fugain, de Joe Dassin, de Michel Berger, et puis on va les chanter en français et en hébreu, parce qu'elles existent très souvent en hébreu, ces chansons.
C'est vrai.
Et en arrivant du côté israélien du voyage, eh bien on va chanter aussi les tubes israéliens que l'on connaît jusqu'à Paris, et notamment les chansons de l'Eurovision, Alléluia, Banibi, etc., qu'on adore chanter, et surtout chanter tous ensemble, parce que ce que j'aime, c'est chanter avec la salle.
Ah, c'est magnifique, Benjamin. Alors, vous en parliez tout à l'heure, vous étiez ému avec ces disques, ces vinyles. C'est peut-être l'héritage d'un inconscient familial, finalement, qui coulait déjà dans vos veines. Vous avez parlé donc des styles musicaux, en hébreu, en français, des classiques. Est-ce qu'il y aura aussi des compositions un peu plus originales, vous, par exemple, des créations ?
Alors, j'ai des compositions que je n'ose pas encore jouer sur scène, mais peut-être que pour le prochain coup, on le fera. Il y aura une création. Je vous ai dit tout à l'heure que les grands artistes français ont été traduits en hébreu.
Oui.
Il existe une version en hébreu de La Bohème, une version en hébreu de Comme d'habitude, et je vais les chanter sur scène. Mais moi, par exemple, je vais vous donner un exemple. Je suis un très, très grand fan de Michel Berger. Michel Berger n'existe pas en Israël.
Oui.
J'adore Starmania. Et mon plus grand rêve aurait été de voir un jour au Théâtre Abima Starmania en hébreu. Starmania n'existe pas. Starmania n'a jamais été traduit. Et bien justement, j'ai décidé, moi, de traduire Starmania et vous entendrez demain soir sur la scène de l'Écluse, et bien du Starmania en hébreu. C'est quelque chose de totalement inédit et c'est une création personnelle. C'est moi qui ai traduit des textes de Starmania en hébreu.
Waouh, alors ça c'est une sacrée annonce en effet. Benjamin, il s'adresse à qui ce concert? Quel public?
Les gens qui aiment chanter. Mmh. Vous savez, on a une tradition de Shira Betzibour en Israël où les gens se mettaient ou s'asseyaient dans un kibbutz autour d'un feu de camp avec un accordéon, une guitare. En France, ça s'est répercuté dans les mouvements de jeunesse, cette tradition-là. Et c'est cette ambiance-là qu'on va donner demain soir, mmh. avec une touche particulière, parce que vous savez, Gadib Guy, qui est le patron de l'Écluse, a transformé cette salle en véritable club de jazz, avec une magie. Cette salle a une vraie magie, avec un beau rideau bleu en velours, avec des petites tables guéridons façon club de jazz dans le public, avec un splendide piano à queue qui a un son exceptionnel, puisqu'il appartient en fait à une pianiste professionnelle. Et c'est dans cet écrin merveilleux qu'on va chanter tous ensemble et qu'on va donner tous ensemble notre amour et du bonheur. Et je peux vous dire, Charlène, qu'on en a bien besoin.
Ah oui, ça c'est vrai.
Une soirée de bonheur.
Alors, malheureusement, votre concert est complet. Donc, pour ceux qui ne pourraient pas...
Il n'est pas complet encore.
Ah,
il est presque complet.
Il est presque complet, d'accord. Parce que j'avais vu sur le site complet. Donc, heureusement. Ou alors, dépêchez-vous, il reste quelques places. Allez-y.
Venez demain soir. Vous pouvez venir devant, on va rajouter des chaises au fond.
Génial. Alors, après ce concert, vous serez à Netanya, il me semble, le 22 juin, et à Ashdod, le 24. Est-ce qu'il y a d'autres projets artistiques que vous préparez en parallèle de votre travail journalistique?
Oui, puisque vous m'avez posé la question tout à l'heure, est-ce qu'il y aura des compositions?
Oui.
Je pense qu'à la rentrée, puisque là maintenant c'est le troisième spectacle qu'on a fait à l'Écluse, mmh. Je pense qu'à la rentrée je proposerai un spectacle avec des créations personnelles, puisque j'ai écrit des chansons, et en français, en hébreu. Et là, bah, écoutez, on verra si le public suivra. Pour l'instant, j'aimerais déjà remercier ce public qui est venu,
oui.
parce que c'est vrai que pour le public, bah, on est habitué à me voir mmh. modestement
oui.
parler comme vous, journalisme et actualité, à la télé, à la radio, ouais. Ce n'était pas évident pour le public de dire, bah, écoutez, on va voir, ça veut dire quoi, Benjamin Petrover qui chante. Et je remercie les gens qui sont venus. Visiblement, ils ont aimé parce qu'ils sont revenus au deuxième.
Mais oui.
Et il y en a qui m'ont dit qu'ils vont revenir au troisième demain. Et donc voilà, et donc on va poursuivre encore plus loin l'aventure. Et je vais proposer la prochaine fois des chansons plus personnelles pour parler de cette époque que nous vivons, mmh. qui est intrinsèquement liée, on ne peut pas le cacher, au 7 octobre. J'ai écrit des textes là-dessus. J'ai écrit des mélodies là-dessus et je pense qu'à la rentrée, je proposerai un voyage musical d'un autre type aux auditeurs qui me feront l'amitié de venir.
Bon, c'est magnifique en tout cas. Pour aller un tout petit peu plus loin, Benjamin, donc vous avez quitté I24 News. Est-ce qu'on peut avoir des indices? Vous savez déjà où vous allez à la rentrée? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ou pas?
Alors, c'est une vraie question de journaliste que vous me posez. Et je vais vous faire malheureusement une réponse
en
moi, même si j'aurais adoré vous le dire. Mais pour l'instant, je n'ai pas l'autorisation de vous le dire. Voilà.
Je comprends bien.
Je vous dirai très bientôt et je le dis aux auditeurs de Radio J, on se retrouvera très bientôt. J'ai vécu des années magnifiques sur I24 News. On a été la première chaîne info au monde à raconter la vérité du Proche-Orient et d'Israël. C'était ça la volonté des créateurs de cette chaîne. Aujourd'hui, 24 se dirige vers une autre histoire, avec surtout une chaîne en hébreu, donc il va surtout parler aux Israéliens. Et moi, qui suis de retour à Paris, eh bien, je vais aussi poursuivre ma propre histoire en me rendant sur un média francophone, mais je vous promets, je vous retrouverai très vite.
Eh bien, en tout cas, on est ravis déjà de vous retrouver demain soir, donc le 16, pour ce magnifique concert à l'Écluse de Paris à Tel Aviv, le voyage musical de Benjamin Petrover. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes journaliste, présentateur et musicien passionné. Bon dimanche.
Merci Charlène, je vous attends demain soir.
Eh bien, merci beaucoup. Au revoir Benjamin.
Au revoir, merci.
Charlène Villemer, Eva Soto, le 6-9, Radio J.
Il est 7h48 sur Radio J, excellent réveil à notre écoute. Dans un instant, on va retrouver l'instant diplomatique comme chaque dimanche avec vous, Eva Soto et Yehuda Lankri, ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU en France. Vos sujets, Eva.
Nous allons évoquer avec Yehuda Lankri cette guerre entre Israël et l'Iran. Et notamment, on l'a appris ce matin, hein, l'armée américaine a intercepté des missiles et des drones iraniens visant Israël. Yehuda Lankri, bonjour. Avec Yehuda Lankri. Comme je vous le disais donc à l'instant, hein, ce matin, l'armée américaine a intercepté des missiles et des drones iraniens visant visant Israël. Les forces américaines opèrent dans les airs, en mer et sur terre pour contrer ce que des sources militaires israéliennes décrivent comme une réponse iranienne soutenue aux frappes israéliennes. Ce matin, d'ailleurs, Donald Trump a affirmé « Si nous sommes attaqués par l'Iran, l'armée américaine répliquera avec toute sa force ». C'est ce qu'il a dit alors qu'hier, lors d'une discussion téléphonique avec Vladimir Poutine, Donald Trump a semblé dire le contraire puisqu'il a affirmé que la guerre contre l'Iran devait s'arrêter. En tout cas, le bilan des frappes de missiles iraniens cette nuit contre Israël s'est alourdi ce matin. 10 morts, 4 à Tamra dans le nord d'Israël, dans une ville arabe israélienne, et 6 autres à Bat Yam dans le centre d'Israël, puisque 2 nouveaux corps ont été découverts par les secouristes et les équipes du Magen David Adom. Il y a 270 blessés selon le dernier bilan. Alors pourquoi un bilan aussi lourd? Eh bien c'est parce que en réalité le régime islamique iranien a trouvé entre guillemets une sorte de parade, c'est de noyer, de saturer les systèmes antimissiles, si bien que le régime islamique iranien a tiré une centaine de missiles contre Israël pendant la nuit. C'est vrai, le taux d'interception est de 90%, mais quand il y a énormément de missiles tirés, ben ça veut dire qu'il y en a 10 qui passent à travers, et effectivement avec ces frappes donc contre des zones civiles en Israël, des images très difficiles, notamment de ces immeubles éventrés, de ces difficultés donc pour les secouristes d'aller chercher les corps sous les décombres, alors que effectivement ce matin, eh bien les Iraniens ont tenté de tirer des drones d'attaque contre Israël et que ces drones ont donc été interceptés.
On a toujours un problème technique. Yehuda Lancry n'est pas avec nous ce matin. On va le retrouver peut-être dans quelques instants. On est dans la matinale week-end sur Radio J. C'est une émission donc spéciale, comme Eva, vous nous le disiez, hein, sur la guerre en notamment Israël-Iran. Hein.
Oui, parce que effectivement en Israël ce matin, comme nous le disait notre correspondante Pascal Sunshine, les écoles restent fermées, les lieux de travail aussi, sauf ceux jugés essentiels. Vous l'avez peut-être remarqué, si vous voulez partir en Israël, le trafic aérien est à l'arrêt total, ce qui signifie donc que les Israéliens sont actuellement bloqués à l'étranger. Il y en a 50 000, toute la flotte est prête à décoller pour aller les chercher dès que le feu vert sera donné.
La journée est belle. Vous écoutez Radio J.
Vous écoutez
Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J.
T'es l'enfant captivé, agressivé, take it or leave it. De Michel en ma team, l'insta qui t'es là.
Radio J,
mon fils poste.
Radio J, mon fils poste.
שאתה מפחיד, ואם אתה לא מתכוון להרים לי, תוריד את התמונות מהפיד, ואם יש לך מה להגיד, כפרה תגיד. שירה לך ככה שאני בטוב, ושאין לך בלילה את מי לאהוב, אתה יודע שאין לך סיכוי מול הפה שלי, מאמי, כי אני חתולת רחוב.
Il est 7h53 sur Radio J et nous venons de retrouver Yehuda Lancry, ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU et en France, pour faire un point sur la situation. Eva Soto.
Bonjour Yehuda Lancry.
Bonjour Eva Soto.
Merci d'être avec nous ce matin, comme chaque dimanche, en direct sur Radio J. Yehuda Lancry, Israël est-il en train de faire tomber le régime islamique?
Il est peut-être un peu trop tôt et prématuré d'en parler, mais je pense que l'opération qu'a déclenchée Israël était d'abord une opération de survie d'Israël, parce que l'impératif était là. il fallait frapper l'Iran déjà depuis assez longtemps. Le moment est venu quand Israël s'est aperçu que l'Iran avait réalisé la percée qui mettait la bombe atomique à portée de main de l'Iran.
Ça veut dire quoi concrètement? Excusez-moi, c'est pour bien comprendre, Yehuda Lankri. Ça veut dire quoi à portée de main? Parce que on le voit hein, depuis des années, effectivement, cette menace existe. Benjamin Netanyahou a fait des discours à l'ONU pour dire que l'Iran était sur le point d'avoir cette arme nucléaire. Pourquoi cette fois-ci, c'est pire que les fois précédentes, j'ai envie de dire?
Parce que l'enrichissement du nucléaire iranien a atteint un tel niveau qu'il était question de quelques semaines pour le transformer en bombe nucléaire, en bombe atomique, en passant évidemment par des essais qui s'imposent. Mais tout cela n'était qu'une question de quelques mois, de 2-3 mois ou plus tard.
Ça veut dire, Yehuda Lankri, que les missiles tirés contre Israël dans quelques semaines, ça aurait été des missiles avec des têtes nucléaires, c'est ça que ça veut dire?
C'est peut-être un peu trop rapide, mais c'est éventuellement une menace qui est potentielle. Des ogives nucléaires sur des missiles, et le but est atteint de cette façon. Donc Israël a déclenché une opération de survie. L'impératif est là, il s'imposait, et nous menons cette guerre pour survivre.
Yehuda Lankri, le régime islamique iranien prône la destruction d'Israël. C'est dans son ADN.
Oui, ouvertement d'ailleurs. Faisant fi de la charte des Nations Unies, dont il est membre. C'est un État membre, et vous le savez, l'article 2 de la charte stipule que dans les relations internationales, notamment entre un État membre et un autre, on ne peut avoir de recours armé ni à la menace. Et les menaces ont été proférées par l'Iran à longueur d'année sans que quoi que ce soit ne lui arrive sur le plan de son appartenance à la famille des nations. Il n'a pas été isolé, il n'a pas été exclu, alors que ça valait l'exclusion.
Ça veut dire que là, dans ce cas précis, c'est l'Iran qui viole le droit international, pas Israël, c'est ça?
Bien entendu, vous n'avez qu'à faire le décompte des menaces proférées par l'Iran. Et l'Iran a déjà monté tout un scénario infernal, allant du nord avec le Hezbollah jusqu'au sud avec le Hamas et les Houthis, et à l'est les milices syro-irakiennes, pour détruire Israël. C'était déjà en œuvre. Et là, c'est directement que l'Iran s'en prend à Israël.
Yehuda Lankri, effectivement, l'Iran s'en prend directement à Israël. On a ces déclarations aussi de Donald Trump, on n'y comprend pas grand-chose. Il affirme que la guerre contre l'Iran doit s'arrêter. Hier soir, quand il est au téléphone avec Donald Trump, ce matin, on apprend que l'armée américaine a coupé, a intercepté des drones qui étaient destinés à frapper Israël. Et puis, Donald Trump a aussi dit ce matin, si nous sommes attaqués par l'Iran, l'armée américaine répliquera avec toute sa force. On a besoin de vous pour décrypter tout ça. On n'y comprend pas grand-chose.
Oui, je ne pense pas qu'il y ait grande contradiction. D'une part, les États-Unis se sont portés aux côtés d'Israël sur le plan défensif, comme l'a fait d'ailleurs la France, et je m'en félicite. Peut-être d'autres pays. Mais le président Macron l'a déclaré et l'a mis en œuvre. Quant au passage à l'attaque, je pense qu'il y a là un temps d'hésitation des États-Unis, à mon sens. Ils ne doivent pas attendre, en vertu de l'alliance qui les unit à Israël, que leur base militaire soit attaquée. Il faut qu'ils passent pour ce second acte. Nous sommes maintenant au second acte de l'attaque israélienne, qui prévoit la destruction d'infrastructures majeures sur le plan.
Ça veut dire que les Américains doivent être dans un cadre offensif comme le fait Israël et pas seulement pour défendre Israël, mais doivent attaquer l'Iran avec Israël, c'est ça?
Oui. Oui, c'est ça. À ce stade, je pense que c'est le moment d'épauler Israël sur le plan offensif. On a toujours dit qu'Israël peut lancer une attaque, mais ce sera difficile de faire cavalier seul avec cet immense territoire iranien et les centaines d'objectifs qu'il faut
frapper. Merci beaucoup Yehuda Lankri, ancien ambassadeur d'Israël en France et à l'ONU. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci, bonne journée à vous.
la 20e édition du Festival des cultures juives. Concerts, rencontres, théâtre, expo, du 15 au 30 juin, découvrez un programme inédit au cœur de Paris. Pour sa soirée d'ouverture, le contrebassiste Avishai Cohen vous donne rendez-vous dimanche 15 juin à 19h dans le cadre intime du Théâtre du Rond-Point pour vivre une expérience musicale inoubliable. Détails et réservations sur festivaldesculturesjuives.org.
Les cultures juives, ça se...
Merci.